Bon, nous allons pouvoir commencer cette soirée qui est, si je ne me trompe pas, l'avant-dernière soirée du séminaire sur... On ne m'entend pas. Ben oui, non, mais vu le bruit ambiant, c'est normal. Donc, ce sera notre avant-dernière soirée, sauf erreur de ma part, sur de notre séminaire Champ lacanien sur la question de ce qui fait lien social à l'époque du capitalisme contemporain. Alors, pour aborder cette question ce soir, nous accueillons Sidi Ascofaré, collègue de Toulouse, qui va intervenir. Donc, son titre, c'est « Lien social et lien hors discours ».
Bonsoir. Donc, en guise de contribution à ce séminaire, dont l'intitulé est « Faire lien social dans le lien, dans le capitalisme aujourd'hui », pardon, ça commence bien. Il faut que je le dise, hein, ce thème m'a beaucoup impressionné. J'ai proposé donc un titre dont j'attends toujours qu'il me secoue un petit peu et me sorte de mon sommeil dogmatique. Alors, ce titre, lien social et lien hors discours, rassurez-vous, ce n'est pas pour verser dans la théorie de la psychose généralisée, encore que nous ayons beaucoup à apprendre de ce que Lacan appelait la psychose sociale. Non, ce qui m'a inspiré ce titre, et que j'ai déjà évoqué dans mon argument, c'est le flou, la quasi-indétermination qui a accompagné le succès de l'expression, du syntagme de lien social, qui aujourd'hui est mis à toutes les sauces, et jusqu'à être tenu pour l'équivalent strict d'une autre expression, très à la mode aussi, qui est le vivre ensemble. En commençant à réfléchir donc sur ce que j'allais pouvoir bien vous dire ce soir, je me suis rendu compte qu'il me fallait éviter deux écueils. Le premier, c'est m'embarquer dans la conception triviale du lien social qui remplit les pages du journal, ou, deuxième écueil, reconduire sans rien interroger ce que j'ai appris et que j'essaye parfois de transmettre, comme la théorie des quatre discours, plus un, le discours capitaliste de Lacan. C'est alors qu'il m'est apparu, en effet, que l'intitulé même de notre séminaire d'école, du champ lacanien, pardon, devrait nous conduire à mettre en tension notre conception du lien social et celle qui en court aujourd'hui, que ce soit dans le monde académique ou dans le monde politique et syndical, associatif et autres. Alors, pourquoi? Parce que poser la question de faire lien social dans le capitalisme aujourd'hui, même avec un point d'interrogation, invite déjà à déterminer de quel lien social parlons-nous. Et d'abord, qu'entendre par faire lien social? Qu'est-ce que faire lien social? Qu'est-ce qui fait lien social? Qui peut faire lien social? Enfin, comment entendre ce lien social, surtout? Au sens que nous a épelé Lacan dans l'envers de la psychanalyse et dans sa radiophonie, au sens des sociologues, Durkheim bien sûr, mais aussi Norbert Elias, qui a écrit, vous le savez, La société des individus, une trilogie, ou de Louis Dumont, qui a écrit ses essais sur l'individualisme. Donc, tous ceux qui se sont intéressés, au-delà du lien social, aux liens sociaux, au pluriel. Une autre perspective est possible, et peut-être a-t-elle été déjà initiée ici même au cours du séminaire, c'est celle qui consisterait à confronter sur cette question Lacan et Freud, notamment la psychologie collective et le malaise dans la civilisation, mais aussi Lacan et Foucault, sur ce que Foucault avait appelé les fondateurs de discursivité, au nombre desquels il comptait Freud, voire Lacan et Deleuze, notamment quand ce dernier s'est intéressé au rapport entre capitalisme et schizophrénie. Mais en vérité, ce qui m'intéresse dans ce thème, c'est d'une part ce qu'il impose de réévaluation de notre savoir concernant la problématique du lien social, et d'autre part, les ponts qu'il permet de construire avec d'autres disciplines qui investissent cette même question. Donc le premier point que je vais développer va tourner autour du lien. Qu'est-ce que c'est qu'un lien ? Et ensuite, on va interroger la question de savoir s'il existe des liens sociaux. Et je confronterai un petit peu un certain nombre de thèses pour essayer de tirer l'idée que je me fais de la tension qui existe entre le lien social, tel que Lacan l'a thématisé, et théorisé, voire formalisé, et les liens sociaux, dont je fais l'hypothèse qu'ils peuvent aussi exister hors discours, comme Lacan a pu dire du psychotique qu'il était hors discours. Alors, je vais partir donc du plus loin dont je puisse partir, en l'occurrence, c'est-à-dire du lien tout court, sans le qualifier de social, donc. Ne serait-ce que parce que pour déterminer ce qui fait lien, il est nécessaire de définir ce qu'est un lien et ce que ça lie. L-I-E. Au plus simple, je dirais qu'un lien, c'est d'abord et avant tout ce qui attache au moins deux choses, deux termes, un sujet et une chose au sens large, c'est-à-dire un objet, une image, une représentation, une valeur, un idéal, un signifiant, etc. Ça peut être aussi le lien en tant qu'il lie deux sujets, voire un sujet et un groupe, famille, clan, bande, collectif, ethnie, nation, mais aussi ce qui fait tenir ensemble ces groupes. Ça relève également du lien. Alors, donc, de poser cette question minimale, on voit bien que surgissent immédiatement d'autres questions beaucoup plus redoutables. Ce quelque chose qui lie cet élément, qui attache, est-il de l'ordre de la substance ou simplement de la relation ? Est-il matériel ou immatériel, affectif, sentimental, conceptuel, etc. Est-il visible ou invisible ? Est-il temporel ou intemporel ? Ou encore, qu'ont en commun tout ce que la langue rassemble à travers les syntagmes de lien de sang, de lien d'amitié, de lien de travail, de lien de propriété, de lien de solidarité, de lien d'amour, etc. etc. Tout ceci pour dire que la question du lien est une question à la fois fondamentale et d'une complexité redoutable, en réalité. Le rappeler ici, au début de cet exposé, c'est aussi nous inviter collectivement à ne pas la rabattre trop vite sur ce qui est connu de nous, c'est-à-dire ce qui a été mis au jour et élaboré à partir de notre pratique, la psychanalyse, et du savoir qui s'en est déposé. Il y a donc le lien au sens générique. Les liens, ce qui suppose des alliés et du lien, et il y a ce que nous avons pris le pli, au moins depuis Lacan, d'appeler le lien social. C'est à ce propos de ce dernier, que nous avons été amenés à nous poser la question « qu'est-ce qui fait lien ?» et à nous engager dans l'exploration de ce qui peut s'en dire depuis la psychanalyse, c'est-à-dire tout à la fois depuis l'invention de la psychanalyse et depuis l'expérience de la psychanalyse elle-même. Alors, cette question, voilà, on demande d'Anne Castelbou, qui est parmi nous, qui m'honore de sa présence. Elle m'avait demandé, il y a quelque temps, d'écrire un petit texte d'introduction au volume du CCPSO. Donc, Word sert à quelque chose, hein, c'est aussi un lien. Donc, je me suis reporté à ce que j'avais écrit pour ne pas avoir à m'ajouter d'autres cheveux blancs. Alors, la question, donc, voici ce que j'avais mis en introduction à ce recueil. La question dite du lien social est devenue centrale dans la vie intellectuelle et les débats politiques. Et pas uniquement dans le journal, les recherches sociologiques ou les spéculations des philosophes. La psychanalyse elle-même est sollicitée et interpellée, sinon pour suggérer des solutions, en tout cas pour formuler son diagnostic. Freud lui-même le fit en son temps avec son malaise dans la civilisation, mais auparavant, il s'était interrogé sur ce qui fait lien dans psychologie des foules, hein, psychologie des masses et analyse du moi, où il mettait en évidence, d'une part, que la psychologie individuelle est aussi, je le cite, d'emblée et simultanément une psychologie sociale, et d'autre part, que les fonctions et processus dégagés par l'analyse dans les cures individuelles sont les mêmes que l'on retrouve à l'œuvre dans les institutions sociales éminentes que sont l'armée et l'Église. Et sans doute, pourrait-on ajouter la famille, voire la nation. Quels sont ces processus? Identification, amour, père, symptômes, etc. Alors, si Lacan reprend à nouveau frais la question de ce qui fait lien, en 1970, c'est moins, me semble-t-il, pour se démarquer de Freud ou pour le contester que pour le radicaliser. Cette option, si elle recycle le syntagme de lien social que Durkheim lui-même emprunte à Rousseau, vaut d'abord par l'obligation qu'elle impose de spécifier la question en la complétant. Qu'est-ce qui fait lien entre des par-l'être ou entre les par-l'être? C'est dire donc que la question outrepasse celle des liens naturels, biologiques, c'est-à-dire les liens instinctuels qui régissent le monde animal non parlant, pour instaurer l'ordre des discours en tant que lien social fondé sur le langage. Je cite Lacan, notamment dans Encore. Donc, si l'instinct est insuffisant pour rendre raison du lien social entre par-l'être, c'est bien parce qu'il s'agit d'assurer davantage que la coexistence d'organismes, celle de corps parlant et jouissant, de corps habité par la parole, mais aussi par la pulsion. Qu'est-ce qui, ces corps les assemble, les rapproche, les enchaîne, les unit, les noue, bref, les fait tenir ensemble? Ce lien est-il de l'ordre du signifiant ou de l'affect? Est-ce le langage et ce qui en dépend? La langue, l'aliénation, le sens, les idéaux, les identifications, la parole, l'engagement, le contrat? Ou serait-ce la libido et ses déclinaisons, pulsions, amour, goût, plaisir, satisfaction, plus de jouir? Leur articulation dans la catégorie de discours qui livre à la fois la structure de l'inconscient, de la politique et du couple analytique nous servira à cerner, pardon, au plus près de l'expérience, ce qui fait lien pour le sujet, ce qui fait lien dans la cure analytique, ce qui fait lien entre parlants sexués et ce qui fait lien dans le social. Voilà donc ce que j'avais proposé comme introduction au recueil des travaux de mes collègues du CCPSE. Alors, cette tentative d'ouvrir la question sans y répondre de façon prématurée laisse apparaître au moins ceci. Derrière cette question d'apparence anodine gîte toute l'économie complexe des formes instituées des rapports du sujet à l'autre et à la jouissance que Lacan a tenté de subsumer sous la catégorie de discours, c'est-à-dire du lien social, je le répète, fondé sur le langage. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'insiste sur cette formule. C'est une théorie et c'est une doctrine tellement exposée et développée, en tout cas chez nous, chez les analystes d'orientation lacanienne, que j'ose à peine l'évoquer. J'y reviens néanmoins pour rappeler un certain nombre de points sur lesquels je prendrai appui pour essayer d'avancer sur ce que j'ai choisi comme sous-thème pour ce soir. Donc, 4 points. Le premier, d'abord, donc, que ce syntagme de lien social n'est pas du cru de Lacan. Il le reprend des philosophes et des sociologues avec lesquels nous l'avons d'ailleurs aujourd'hui en partage. C'est pour ça qu'il me semble que surtout dans la société où nous vivons, nous parlons avec les autres. On ne parle pas qu'avec nous-mêmes. Ce serait d'ailleurs très grave. Ce serait l'autisme psychanalytique. Donc, devoir parler avec d'autres implique de savoir ce qu'eux aussi entendent par ce syntagme-là. Deux, donc, le reprenant, il en fait, Lacan en fait un concept, ou en tout cas une catégorie originale, qui est sans commune mesure avec ce que, dans les champs philosophiques, sociologiques ou économiques, on appelle aujourd'hui lien social. Troisième point, si Lacan décrit, ordonne et formalise les liens sociaux fondés sur le langage à partir des trois impossibles freudiens, c'est-à-dire le gouverner, l'éduquer et le guérir, ce n'est pas sans étendre l'éduquer, ce qu'il appelle le discours universitaire, qui excède la pratique éducative au sens strict, on peut y inclure, me semble-t-il, toutes les pratiques qui visent à objectiver l'autre afin de le produire comme assujetti au nom d'un savoir. Éduquer donc, bien sûr, au sens où Lacan assimile l'éducation à une pratique de dressage, mais aussi convertir le mécréant ou le non-croyant, voire civiliser le sauvage. Subvertir le guérir, qui indexe le désir du médecin pour lui substituer le désir de l'analyste. Et Lacan ajoute un quatrième, le faire désirer, celui-là, elles sont crues, autour duquel il structure le discours dit de l'hystérique. Mais comme vous le savez, Lacan ne s'arrête pas là. Non seulement ce qu'il dit de chacun de ces liens sociaux institués, il ne peut l'affirmer et il ne peut le soutenir qu'à partir du dernier né d'entre eux, c'est-à-dire le discours analytique, mais ce discours analytique le conduit à poser un certain nombre de choses, dont ce qui pourrait s'apparenter à un diagnostic du discours comme tel. Ce que ce diagnostic de Lacan nous apprend, c'est qu'en vérité, tout discours, en tant qu'il est traitement de la jouissance, est un dispositif de maîtrise, un mode d'exercice d'une forme de pouvoir. En tout cas, c'est ainsi que je lis ce que Lacan affirmait au cours de sa séance du 11 février 1970. Je le cite. « La référence d'un discours, c'est ce qu'il avoue vouloir maîtriser. Cela suffit à le classer dans la parenté du discours du maître. » Page 79 de l'envers. J'ai dit « pouvoir ». Je sais combien ce mot fait peur. Et je sais encore plus que les psychanalystes ont tendance à vouloir le rapporter au seul discours du maître. Or, il n'en est rien, comme ce que je viens de rappeler de l'envers de la psychanalyse l'atteste, et comme l'atteste à sa façon la direction de la cure et les principes de son pouvoir. En effet, la relation inscrite, sur la partie supérieure de chacun des discours institués, celle entre l'agent du discours et l'autre du même discours, est toujours une relation de pouvoir, c'est-à-dire relève du principe de faire produire, c'est là que se situe l'acte de l'agent, de faire produire par l'autre des effets non nécessaires. Et cela vaut y compris pour le discours hystérique, qui se présente au moins phénoménologiquement comme situé aux antipodes de toute relation de pouvoir. Quatrième point, enfin, donc, quelques années plus tard, dans sa télévision, Lacan fait valoir que ce qu'il appelle éthique elle-même est à rapporter à ses discours institués. Plus précisément, il énonce la thèse, aujourd'hui reçue, me semble-t-il, selon laquelle l'éthique est relative au discours. Il n'y a pas une éthique qui vaille pour tout sujet parlant. L'éthique est relative au discours. Alors, on peut dire que le projet de Lacan d'élever la psychanalyse à la dignité d'un lien social sui generis est pour beaucoup dans la manière dont il a été conduit à définir ce qu'est, selon lui, un lien social. C'est un peu, on peut faire le lien entre la manière dont il a procédé pour l'acte, essayer d'éclairer tout acte à partir de la manière dont il a défini l'acte analytique. De la même manière, c'est le travail pour formaliser en quoi la psychanalyse est un discours qui l'inspire et lui fraye la voie pour essayer de rendre raison des autres discours. Très exactement, à partir de trois coordonnées principales. Hein, le point de départ de Lacan pour concevoir et pour formaliser ces discours. Un métier ou une pratique sociale ouvrant sur un acte spécifique, la structure de langage, qui dépasse de loin la parole en tant qu'elle instaure un certain nombre de relations stables, je cite Lacan, s'inscrit ou dans lequel s'inscrivent les énonciations effectives du sujet, des sujets, autant que leur conduite et leurs actes, et enfin l'articulation de ces relations stables, de ces discours établis qui font la culture, mais au sens où, je cite Lacan au sens où la culture, en tant que distincte de la société, ça n'existe pas. C'est un point très important pour moi, c'est à partir de cette indication de Lacan que je vais essayer de faire un petit pas. Alors, comment considérer, sur le fond de cette doctrine, que l'on puisse répondre à la question « faire lien social dans le capitalisme contemporain ». C'est à ce point que je vais convoquer l'autre théorie du lien social. La seule, à mon avis, qui puisse rivaliser, entre guillemets, avec celle de Lacan, c'est-à-dire la théorie du sociologue Émile Durkheim. Si Lacan s'appuie sur une théorie du signifiant, une théorie de la structure du sujet et une théorie de la jouissance pour construire sa conception du lien social, Durkheim, lui, va initier son approche du lien social sur le fond d'un rejet, le rejet des théories du fonctionnement social fondées sur l'individu. Et qu'est-ce qu'il oppose aux théories de l'individu ? Non pas la catégorie de sujet, bien sûr, mais la notion, la catégorie de solidarité. Catégorie sur laquelle il va prendre appui pour analyser à la fois le processus de différenciation des individus et la cohésion des sociétés modernes. Des sociétés anciennes, mais aussi modernes, c'est la nature de la solidarité qui change, hein, en passant des sociétés anciennes aux sociétés modernes. Je vais y revenir. Il s'agissait pour lui de répondre à une question redoutable. Comment se fait-il que, tout en devenant plus autonome, l'individu dépende plus étroitement de la société? C'était ça, la question de Durkheim. En lieu et place donc des théories du contrat social, celles de Rousseau, de Locke, etc., Durkheim va mettre l'accent sur le lien à la société, qu'il appelle le lien social, et les liens qui font la société, les liens sociaux. On remarquera qu'il faudra à Durkheim pas moins de 3 ouvrages, de la division du travail social, le suicide et l'éducation morale pour venir à bout de ce programme. Donc, c'est quand même quelqu'un de sérieux. Il faut aller voir. Je dirais, pour faire simple, que Durkheim fraye une nouvelle perspective sur le lien social, perspective qui essaye d'articuler les 2 conceptions qui l'ont précédée, c'est-à-dire le fait social comme étant originairement économique, au sens où l'activité économique est le vecteur fondamental du lien social, et l'autre perspective, qui date au fond d'Aristote, de l'homme comme animal politique. Bref, on peut dire l'homme du besoin et l'homme du lien, de l'attachement, de la solidarité et de la reconnaissance. C'est pourquoi c'est le travail, la division du travail social et les rapports de travail qui vont constituer la base sur laquelle Durkheim va édifier sa conception du lien social, pour poser la question des fondements de ce lien, lien qui attache l'individu au groupe et à la société, et les individus entre eux. Mais c'est aussi sur cette base-là qu'il va essayer d'examiner les pathologies de ce lien et envisager enfin les conditions de son maintien. C'est là qu'il introduit les notions de régulation et d'intégration. Alors, si le travail, la division du travail et ses conséquences, c'est-à-dire la complémentarité, le sentiment de la dépendance du sujet à l'endroit des autres, la nécessité de la concertation et de la coopération dans le milieu de travail constitue la matrice de la construction théorique de Durkheim, il ne limite pas pour autant le lien social au lien de travail. Le lien social comporte et implique selon lui d'autres liens sociaux qu'il conditionne et qu'il encadre. Je dirais, pour ne pas tomber dans le ternaire vichysois, hein, famille, religion, politique. Il s'agit de dispositifs, d'institutions qui fabriquent du sujet et produisent les liens, la protection, la formation, la reconnaissance, les idéaux et, je le souligne, la solidarité sans lesquelles une vie proprement humaine devient sinon inconcevable, en tout cas profondément mutilée. Prenant appui donc sur les travaux du philosophe et sociologue allemand Ferdinand Tönnies, l'auteur de « Communauté et société », catégorie fondamentale de la sociologie pure, donc prenant appui sur les travaux de ce penseur allemand, Durkheim va s'attacher à examiner le changement dans la structure de la solidarité qui aura déterminé le passage de la société traditionnelle ou des sociétés traditionnelles à la société moderne, c'est-à-dire le passage de ce qu'il appelle, Tönnies appelle la solidarité mécanique à la solidarité organique. Alors, je vous donne juste une petite citation de Pogam qui explicite cette opposition que Durkheim reprend. Je le cite, « La solidarité mécanique, vous verrez, c'est très simple, hein, correspond à la solidarité par similitude. Elle renvoie aux sociétés traditionnelles dans lesquelles les individus sont peu différenciés les uns des autres, partagent les mêmes sentiments, obéissent aux mêmes croyances et adhèrent aux mêmes valeurs. La solidarité organique, elle, est la forme opposée, c'est-à-dire celle qui caractérise les sociétés modernes. Ce qui fait le lien social dans ces sociétés, c'est avant tout l'interdépendance des fonctions, laquelle confère à tous les individus, aussi différents soient-ils les uns des autres, une position précise. Alors, le lien social moderne est donc celui qui tente d'accorder et de faire tenir ensemble l'individualisme comme valeur, hein, au sens où l'a travaillé l'auteur des essais sur l'individualisme, et la nécessaire solidarité sans laquelle faire société devient impossible. Alors, les Durkheimiens contemporains, en particulier Pogam, ont construit sur le fond de la théorie du lien social de Durkheim une théorie des liens sociaux. Ainsi, Pogam ramène-t-il, dans l'après-coup des changements sociologiques qui ont affecté les sociétés européennes depuis la Deuxième Guerre mondiale, il a ramené donc les liens sociaux fondamentaux, tiens, au nombre de 4. Hein ? Comme quelque chose que vous fréquentez, hein ? Au nombre de 4, donc je les rappelle, il isole premièrement les liens de filiation, les liens entre parents et enfants, puisque la famille Foulcan, on ne peut pas parler des liens familiaux, puisque le temps de se rencontrer, de faire des enfants, les gens se séparent déjà. Après, qu'est-ce que ça ? Donc la filiation au moins reste, donc les liens de filiation. Ensuite, il distingue... Il isole ce qu'il appelle les liens de participation élective, l'amour, l'amitié, etc., là où on choisit les personnes avec lesquelles on établit le lien. Le troisième type, c'est ce qu'ils appellent les liens de participation organique. C'est l'ensemble des liens qu'on noue dans le monde du travail, les liens entre collègues. Et enfin, ce qu'ils appellent les liens de citoyenneté, c'est-à-dire les liens politiques, associatifs, les liens fondés sur le partage de mêmes idéaux et de mêmes valeurs. Alors, il se trouve que Durkheim, de son temps, s'était interrogé sur ce qu'il en était de la solidarité organique et de son devenir dans le capitalisme à la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Dans la mesure où, à ses yeux, l'intégration des individus au lien social passe nécessairement par leur intégration, directe ou indirecte, au monde du travail, en ce que c'est le travail qui leur assure une fonction précise, interdépendante des autres fonctions, et par conséquent, c'est le travail qui leur offre, qui leur donne une utilité sociale, les évolutions introduites par le capitalisme dans le rapport à l'emploi, plus ou moins forte instabilité pour les travailleurs face à l'avenir, et dans le rapport au travail, plus ou moins forte adaptation à leurs tâches. Donc, quel est le diagnostic posé par Durkheim à partir de là? Il pose le diagnostic suivant, en tout cas c'est comme ça que je le formule, le capitalisme conduit à la précarisation, voire à la précarité de l'emploi pour de nombreux travailleurs, mais pas seulement. La concurrence sauvage, érigée en système de fonctionnement, entraîne aussi les faillites, les dépôts de bilan, les cessations d'activité et, in fine, le chômage. Or, étant donné le caractère structurant de l'emploi et du travail dans le lien social déterminé par la solidarité organique, donc par le capitalisme, cette précarité de l'emploi et du travail devient assez facilement et assez rapidement une précarité sociale tout court, avec au bout une désinsertion sociale et subjective, une sortie du lien social. Alors, j'accélère. De Durkheim à Lacan, il y a donc des points communs. Le plus important, à mes yeux, c'est que tous deux situent le lien social principalement dans des liens, du côté des liens sociaux institués, qui sont également la structure des discours établis, les liens sociaux à la fois dissymétriques et des liens d'assignation. Je vais essayer de m'en expliquer. Il me semble que, aussi bien chez Durkheim que chez Lacan, ce qu'ils appellent lien social prend appui sur le type de lien qui est organisé sur le fond de nécessité sociale, d'une part, et qui ont une structure dissymétrique, c'est-à-dire où on a un rapport, par exemple, entre le maître, l'esclave, le patron, l'ouvrier, l'enseignant, l'astudé, etc., etc. Ce sont des types de liens qui ont cette structure qui est dissymétrique. Vous comprendrez pourquoi j'y insiste. Or, les mutations et les atteintes fortes du capitalisme ou et du discours capitaliste, je vais essayer de réfléchir avec vous là-dessus, portent électivement sur ces liens. C'est-à-dire, le capitalisme s'en fout, si vous voulez, pour parler vulgairement, des liens qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement social en tant que tel. C'est-à-dire, ce sont les liens institués qui sont attaqués par le capitalisme. La simple lecture du journal suffit pour attester que les mutations initiées par le capitalisme touchent principalement le monde économique, donc l'emploi, le travail, mais aussi la famille, c'est-à-dire aussi bien l'éducation, la fabrique des sujets, la transmission, la religion, donc le sens, les liens communautaires et culturels, l'école, donc le savoir, la formation, la recherche, l'hôpital, donc le soin, le droit, donc les normes, la politique, donc le collectif, le destin commun, la protection, la solidarité, la défense, etc. Sur le constat, il me semble qu'il est facile de s'accorder. Demeure la question. Quel capitalisme ou qu'est-ce qui du capitalisme met ainsi à mal le lien social et les liens sociaux les plus structurants? Mon hypothèse est que c'est ici que notre approche du lien social, je veux dire celle que Lacan nous a léguée, se distingue et peut être plus éclairante que celle des sociologues, des philosophes, ou des économistes. En effet, malgré les acquis immenses de la théorie de Durkheim et de ses successeurs, on peut dire que l'économisme reste dominant dans ses conceptions, y compris chez les sociologues. Donc. Et ce qui est appelé capitalisme, pour eux, on le réduit presque naïvement à un système économique différent et opposable à d'autres systèmes économiques possibles. C'est d'ailleurs même pourquoi, me semble-t-il, Durkheim lui-même a pu considérer que par l'éducation morale des citoyens, par la démarchandisation des individus et par la régulation par l'État de la sphère économique, l'adoucissement de la concurrence, le système de protection sociale, le système de redistribution par une politique fiscale, etc. Oh, merci. C'est un amour. Je reprends. C'est d'ailleurs même pourquoi, disais-je, que Durkheim a pu considérer que par l'éducation morale des citoyens, par la démarchandisation des individus et la régulation par l'État de la sphère économique, donc adoucissement de la concurrence, système de protection sociale, système de redistribution par une politique fiscale, on pourrait contrer les effets dévastateurs de l'économie capitaliste. C'était un bon militant socialiste en réalité. Monsieur Durkheim, non, mais il le revendique aussi. C'est très bien. Il y a pire. À cette perspective, il me semble que Lacan en oppose une autre, qui, en fondant le lien social non pas dans le travail, et donc dans l'économie, mais dans le langage, le fait relever le lien social de la culture. De la culture. Lacan ne disait-il pas lui-même aux Américains et à la surprise générale, je le cite, c'est dans sa conférence à Columbia, dans les universités nord-américaines, donc la conférence Le Symptôme, dans le 6-17, numéro 6-7, page 48. Donc Lacan disait ceci, « La culture, moi, c'est ce que j'ai essayé d'écarteler sous la forme de quatre discours. Mais bien sûr, ce n'est pas limitatif. C'est le discours qui flotte, qui surnage à la surface de notre politique à nous, je veux dire de notre façon de concevoir un certain lien social. » Et il poursuit, « Si le lien était purement politique, discours du maître donc, nous y avons ajouté le discours qu'on appelle universitaire, le discours qu'on appelle scientifique, qui ne se confondent pas, contrairement à ce qu'on imagine. » Fin de citation. Le frayage de Lacan, c'est mon hypothèse, voire ma thèse pour ce soir, en proposant la notion, j'allais dire, oxycomorique de discours capitaliste, a été justement d'attirer l'attention sur ce que les discours sociologistes et économistes méconnaissaient et occultaient, à savoir que le malaise contemporain n'est pas à rechercher dans l'efficace d'un système économique, ou pas seulement en tout cas, c'est-à-dire dans un mode spécifique de production et de répartition des richesses. Il est à rechercher dans un discours, au sens où Lacan fait relever ce dernier de la culture, au sens quasi-freudien de Kultur, position, et parfois l'identifie à l'idéologie dans sa fonction de faire tenir ensemble des corps. Or, c'est ça donc, que je vais soumettre à la discussion ce soir, envisager le capitalisme sous l'angle du discours et pas simplement sous l'angle de l'économie, donc comme mode de production, au sens réduit du terme. Or, envisager le capitalisme sous l'angle du discours, même si c'est pour poser d'emblée que, contrairement aux discours fondamentaux, il ne fait pas lien social, n'est-ce pas déjà commencer à mettre au jour que le système productif n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus délétère dans le capitalisme. J'ai l'idée que si Lacan a tant insisté sur le discours capitaliste, ce n'était pas pour dire autrement que ce que les économistes, et parmi eux le premier, notamment plutôt Karl Marx, ce qu'ils avaient donc déjà bien établi. Au contraire, si Lacan a pris une autre option, c'était pour souligner, me semble-t-il, que ce qui est le plus dangereux pour le lien social, et donc pour la psychanalyse, puisque elle est également un lien social, c'est le capitalisme, dirais-je, comme civilisation, entre guillemets, soit ce qu'il a proposé d'appeler discours capitaliste, justement. Ce discours capitaliste, ou discours du capitaliste, dont l'essence n'est rien d'autre que l'articulation historique, voire la fusion de l'économie industrielle puis financière, du discours de la science comme idéologie de la suppression du sujet et de l'individualisme démocratique et égalitariste. Cette civilisation-là a comme trouvé son accomplissement dans l'émergence et la domination tendancielle de ce qui est aujourd'hui appelé ultralibéralisme. Je conclus que cette civilisation soit destructrice de liens. C'est l'évidence même. Et ce qu'elle met à nu n'est rien d'autre que ce que Lacan a appelé dans sa troisième le symptôme social. Il n'y a, je le cite, qu'un seul symptôme social. Chaque individu est réellement un prolétaire, c'est-à-dire n'a nul discours de quoi faire lien social, autrement dit semblant. Que le capitalisme mette à nu cette dimension du symptôme social implique-t-il pour autant qu'on l'y réduise? Et surtout, doit-on en conclure que par ces ravages, ils viennent non seulement à bout des discours établis, mais qu'ils rendent impossible tout lien? C'est peut-être sous-estimer la solidité du lien social, que le lien social, les quatre discours, tiennent de la structure, d'une part, et c'est aussi sans doute mésestimer les capacités du capitalisme à inventer de nouveaux liens, fussent-ils hors discours. Et peut-être que de cela, Twitter et Facebook ne sont que les timides précurseurs. Je vous remercie.
Bon, merci Sidi pour cet exposé qu'on va discuter. Alors, je suis chargé de te faire un peu la réplique.
Très bien.
Bon, il y a beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de notes. Bon, t'as commencé par insister sur un point qui est un point qui nous concerne tous et qui est un point d'actualité et qui concerne les politiques du vivre ensemble. Alors, est-ce que le vivre ensemble est l'autre façon, dans le langage courant, de parler des liens sociaux? Il me semble que oui, en tout cas. Et que le problème qui se pose dans ce cadre, qui se pose aux politiques, c'est de comment arriver à universaliser les jouissances quand elles sont disparates au niveau des individus et des groupes. Donc ça a des conséquences en fonction des orientations politiques, hein, puisque on peut avoir grosso modo des politiques communautaires ou des politiques dites d'intégration. Donc là, tu as situé la problématique quand même dans son actualité politique. Alors, la question que... Donc tu as essayé de dégager, en fin de compte, quelle était la différence entre la définition du lien social chez les sociologues, et en particulier Durkheim, et la façon dont Lacan l'aborde. Donc ta réponse était de dire que du côté de la sociologie, c'était de prendre le lien social uniquement dans sa dimension économique, enfin, sur l'économisme, comme tu lui as dit, et que Lacan abordait la chose différemment comme on le connaît, via les discours, donc la structure des discours. La question que je te pose, c'est est-ce que n'y a-t-il pas la différence ne serait-elle pas aussi du côté de ce que la sociologie ne prend pas du tout en compte, même dans son abord de l'économie, la dimension marxiste de la plus-value, donc dont Lacan a fait usage, pour l'utiliser dans la dimension de ce qu'on appelle du plus de jouir. Parce que dans tout ton texte, tu n'abordes pas la question de la jouissance, hein, qui est quand même un élément majeur de la raison des quatre discours et de ce qui organise un des éléments des discours en eux-mêmes. Puisque quand même, le lien social qu'il soit le lien social sociologique tel que la sociologie l'aborde ou le lien social tel que la psychanalyse l'aborde, a pour fonction de réguler la jouissance. Ça, tu l'as dit, mais tu l'as... En tout cas, tu n'en as pas fait le point de différence entre sociologie et psychanalyse lacanienne.
Non, mais je ne crois pas qu'il y ait une différence de ce point de vue-là. Si on prend comme point de départ de la question du lien social le travail, la question de la jouissance y est impliquée. On n'a pas besoin de mobiliser ou de convoquer la notion de jouissance pour... Ça se démontre facilement, hein, notamment dans le capitalisme. Mais pas que. Là où il y a du travail, il y a la question de la jouissance qui est posée à la fois dans le rapport de celui qui travaille avec ce qu'il travaille, et ensuite pour tout ce qui concerne le devenir de la valeur qui est produite par le travail. Il me semble que c'est... Ça fait partie, hein, si tu veux, de la tradition.
Attends, je termine mon petit développement là, impromptu, puis après je te donne la réponse.
Si tu as déjà la réponse, c'est pas la peine de me poser la question.
J'ai pas la réponse, mais je te donne la parole. Y a un point qui est à la fin de ton exposé qui m'a particulièrement intéressé. Alors, avant d'y venir, j'ai juste une petite remarque. Quand tu parles de lien social hors discours, n'est-ce pas un oxymore? Alors, toi, tu as utilisé l'oxymore, ce que tu appelles comme oxymore le discours capitaliste, mais lien social hors discours... si tu pourras développer un petit peu ce que ça regroupe pour toi. Alors, tu as dit comme le psychotique qui est hors discours. Et justement, le psychotique, il est hors lien social d'être hors discours.
Ça se discute, comme on dit.
Ça se discute. Alors, c'était juste un petit point. Non, le point qui m'a en particulièrement... attiré et intéressé, c'est quand tu dis que à propos du système capitaliste, que ce n'est pas le système productif qui est lui-même le plus délétère dans le système économique en lui-même qui ne serait pas le plus délétère dans le capitalisme. Pour moi, ça a un peu résonné avec ce qu'on a développé avec dans les séances précédentes, où à partir de l'idée que Lacan a un moment développé, on trouve ça dans Télévision, où il dit, il parle de la sortie du discours capitaliste qu'il nomme comme un progrès. Alors, il me semble que cette vision d'un progrès possible a été entendue comme une sorte de programme anti-discours capitaliste, enfin anti-économie de marché. C'est un peu les résonances que parfois on peut entendre dans les exposés. Et moi, je n'ai pas le sentiment que Lacan prenait prenait un discours alternatif à l'économie de marché. Parce que certains ont pu voir que grâce à la psychanalyse, on allait pouvoir renverser le système économique dominant. Quand il parle de sortir du discours capitaliste, il me semble que c'est pour rentrer dans le discours analytique, et c'est-à-dire que ça concerne des sujets au un par un. Il ne semblait pas que là, il nous annonçait que on allait rentrer dans un autre système économique.
C'est pour ça quand tu sais très bien que tout le monde lit Lacan avec son fantasme. Donc,
Oui, mais bon, alors évidemment, ça a suscité des espoirs. Ce qui était plutôt promu, c'était une sortie du lien d'assujettissement
Il dit même que ce n'est pas un progrès si c'est simplement pour certains, pour quelques-uns.
Oui, il faut que ça soit, que ça ne concerne pas que quelques-uns, sinon ça n'a pas d'incidence sociale, si ça ne concerne que quelques-uns. Mais la sortie, moi je la vois quand même plus comme la sortie de l'assujettissement des prolétaires que nous sommes, parce que nous sommes tous pris dans le discours capitaliste, et que la psychanalyse nous permettra, si elle est bien menée jusqu'à où elle doit être menée, en tout cas, de cet assujettissement aux objets produits par l'économie de marché qui commande à notre jouissance et à notre désir.
Donnez vos portables, vos iPhones, vos tablettes.
Non, mais ça n'exclut pas qu'on continue à fonctionner dedans, mais on y est certainement moins pris.
À la fin, je ne me savais pas déplacer pour rien.
Alors, je vais poursuivre ma petite idée et après je te donne la parole. Sur par rapport à la déploration sur les effets du discours capitaliste. On peut s'interroger sur les conséquences réelles des discours qui dénoncent les effets du capitalisme. Y en a-t-il ? Est-ce que ces discours qui vont contre ont-ils vraiment une incidence dans la réalité ? Moi, j'ai quand même dans l'idée que c'est loin d'être certain et que même que ces formes de déploration de l'économie de marché, le discours capitaliste n'en a cure. Et plutôt même qu'il les affectionne.
La dénonciation renforce toujours le discours qui dénonce.
Voilà. Alors ça, c'est déjà une première thèse. Et aussi quand même dans l'idée que pendant qu'on déplore les désordres engendrés par ce discours et qu'on essaye d'y remédier tant bien que mal en le contrant, eh bien, sans que nous nous apercevions, ce discours continue à développer ses nouvelles armes au nez et à la barbe de ceux qui s'en font les contradicteurs. Et ça m'a rappelé ce qu'il disait quand même à propos du parti comme babysitter de l'histoire.
Radiophonie.
Donc là, il s'agit du Parti communiste. Alors, je ne sais pas si c'était tous les partis communistes, mais enfin, je pense qu'il s'agissait quand même du Parti communiste français, qui était quand même dans une position qu'il réduit simplement à voir passer le train de l'histoire. Voilà, voilà mes réflexions que m'ont suscité ton exposé. Maintenant, je te laisse la parole et puis après, je passe la parole à la salle.
Je te remercie, Patrick. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Donc, ça me conduirait à reprendre tout l'exposé, au fond, sous un autre angle.
Peut-être pas.
Ce dont je n'ai pas du tout les forces à cette heure-ci. Bon, sur peut-être un ou deux points. Le premier point important que tu soulignes, en tout cas qui vient en écho avec ce que j'ai essayé de dire et de transmettre, ça concerne l'importance que moi j'accorde à l'expression de discours capitaliste, que je considère comme n'étant pas réductible au système économique capitaliste. C'est ça, si tu veux, la thèse sur laquelle j'insiste, le point sur lequel j'insiste, et qui me semble orienter le travail de Lacan sur la question des liens sociaux, entendu au niveau sociétal. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, la différence de fond entre Lacan et les sociologues, ce n'est pas simplement que Lacan parle de la jouissance et que les sociologues n'en parlent pas. Ou que moi, parlant de Lacan, je n'insiste pas sur le fait, je l'ai dit comme ça en passant, que le discours est un dispositif de traitement de la jouissance. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne dit pas pourquoi il y a nécessité du lien social, pourquoi Lacan prend son départ dans la question du langage et dans la structure du sujet pour traiter de ça, et ça, ça n'éclaire pas non plus pourquoi il limite à 4 liens fondamentaux qui sont des activités, des pratiques sociales en réalité, pour dire voilà les liens sociaux. Puisqu'il y a quand même un lien hein, entre ce qu'il développe dans la science et la vérité, hein, où il opposait la magie, la religion, la science et la psychanalyse, c'est une première présentation, et ensuite il reprend sous la forme du discours du maître, du discours universitaire, etc. Il me semble que s'il n'y avait pas ce projet d'émanciper la psychanalyse à la fois de la médecine et de la science, Lacan ne serait pas engagé dans la construction de la théorie du lien social. C'est pour dire en quoi la psychanalyse est quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau par rapport à ces pratiques-là qu'il s'engage dans cela. Mais entre-temps, il a fait des rencontres, il a saisi des choses, notamment dans le débat qu'il avait eu avec Michel Foucault, quand celui-ci avait fait son exposé sur les fondateurs de discursivité, qui ont poussé les choses beaucoup plus loin. Mais, le sociologue ne peut pas partir simplement de 4 activités. Voilà, Durkheim avait une conception où il envisageait la question du lien social d'une manière plus en rupture avec les penseurs du passé. Ce n'était pas pour fonder la sociologie qu'il le faisait en tant que tel. C'était pour produire un concept du lien social qui n'est pas celui des économistes, qui n'est pas celui des philosophes. Moi, je considère que ça a un intérêt. Après, on peut trouver, comme je le disais tout à l'heure, ça se discute. Non, mais je considère que ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas le terme de jouissance que la question n'est pas posée à travers le travail. À travers le travail, à travers la répartition, le devenir des fruits du travail.
Et le lien social hors discours.
Oui, alors le lien social hors discours, c'est, j'entends par lien social, lien hors discours, pas lien social hors discours. Hein. J'ai dit lien social, c'est-à-dire, voilà, il y a le lien social qui est le système articulé des 4 discours fondamentaux et les liens hors discours, c'est-à-dire les liens qui ne trouvent. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que je n'ai pas repris social. Si on dit lien social hors discours, c'est problématique, bien sûr. Mais je considère qu'il y a des liens hors discours, c'est-à-dire des liens qui, justement, ne convoquent pas nécessairement les corps, d'une part, et d'autre part, ne convoquent pas les corps, puisque la fonction, quand même, des discours fondamentaux, c'est de faire tenir, hein, c'est de faire tenir ensemble des corps. Donc, c'est ça, le premier point. Et d'autre part, ce sont des liens qui ne participent pas au fonctionnement et au maintien du lien social en tant que ça fait support de la société comme telle. C'est ça que je veux dire très modestement.
Alors, je passe la parole aux questions de la salle. Marc Strauss, est-ce qu'il y a un micro, on va te passer le micro.
Merci Sidi pour tous ces éclairages. J'aimerais que tu dises quelques mots de quelque chose dont je crois que tu n'as pas parlé, ou tu as parlé en l'évoquant, mais tu précises. Lacan a parlé, quand on parle des... Ah, d'abord, deux questions, pardon. La première... Première question. Voilà, première question, c'est... je suis très sensible à la façon dont s'insiste sur le fait que les discours servent à tenir les corps. C'est des par-lettres, et ce sont les corps que les discours disposent. Une question, quand... on parle de qu'est-ce qui fait tenir les corps, comme tu l'as dit, la tenue, est-ce que ça concerne les corps entre eux, d'un corps de par-lettre à un autre uniquement, parce que ça concerne ça évidemment, mais est-ce que ça ne concerne pas aussi la tenue du sujet, avoir de la tenue, c'est-à-dire le lien du sujet à son corps, à son propre corps. Ça, j'aimerais que tu me répondes là-dessus, si tu peux. Et la deuxième question, c'est celle des liens entre les discours. Lacan a fait des liens entre les discours, progrès, régression, etc. Donc, comment tu situes le lien, toi, entre le discours du capitaliste et le discours analytique? Autrement dit, versant pratique de ma question, tu le vois venir, est-ce que le discours analytique s'adresse à ce qu'il y a de souffrance dans les trois discours, ou, délaissant donc la dimension erratique de la jouissance capitaliste, ou est-ce qu'il y a une adresse, une interlocution possible du discours analytique au discours du capitaliste avec sa souffrance spécifique, souffrance, jouissance, jubilation, ce que tu veux.
Bien, merci. Merci Marc pour ces deux questions. Alors, pour la première, la réponse est relativement simple. En effet, comme tu l'as souligné, quand Lacan parle de discours et de corps et de fonction des discours, la fonction du discours étant de faire tenir des corps, il y a à entendre ça dans les deux sens. Parce que pour qu'un corps puisse tenir un lien avec un autre, il faut qu'il se tienne lui-même. Donc il y a cette dimension du faire tenir le corps du sujet qui est produit, du par-l'être qui est produit par le discours, du maître en l'occurrence, et c'est ce corps-là qu'il engage dans le lien avec l'autre corps. Pour faire tenir le social. Donc, pour ça, il n'y a pas de discussion possible. Oui.
Du coup, de la tenue des corps dans le discours capitaliste.
Oui, non, mais j'y viens. Il me semble que pour ce qui concerne le discours capitaliste, on est très embêté, justement. On est très embêté puisque, comme tout le monde le sait, ce discours est profondément paradoxal. Il est tout à fait paradoxal. Ce n'est pas pour rien que Lacan l'ajoute aux autres et ne le thématise pas véritablement. C'est-à-dire, à part ce qu'il a dit à Rome, dans le discours psychanalytique, il dit très peu de choses de ce discours. Il me semble que, autant ce qu'il décrit de rapport, donc à la fin de télévision, entre les trois discours, le discours capitaliste, entre le discours du maître, le discours hystérique et le discours universitaire, vont dans le sens d'un lien et d'une articulation possible avec le discours analytique, dans la mesure où c'est le discours du maître qui produit les sujets, que c'est le discours universitaire qui produit le sujet et que c'est le discours hystérique qui met en fonction le sujet dans l'interpellation de l'autre, pour dire ce qu'il en est de sa jouissance et de sa vérité. Autant pour ce qui concerne le discours capitaliste, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement réel de ce discours, qui est de s'ordonner autour d'un rejet de la castration, des choses de l'amour, comme dit Lacan, implique un rapport de non-rapport au discours analytique, en réalité. C'est-à-dire que si c'est sur fond de forclusion de la castration que se constitue ce discours, je ne vois pas comment le symptôme d'un tel sujet peut être porté à l'analyste pour qu'il le déchiffre, ou que sa jouissance soit interrogeable dans une cure analytique. Voilà ce que je peux dire là.
Oui, une question au fond, là, près. Ici.
Bonsoir.
Vous avez parlé du discours de la science.
Oui.
C'est un autre discours que Lacan n'avait pas déployé. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de
la Oui. C'est une très bonne question, mais c'est une question... Bon, alors, disons que, si vous voulez, il faut quand même se rendre compte que Lacan utilise le terme de discours de deux manières, à minima, hein, c'est-à-dire au moins de deux manières, c'est-à-dire une manière forte qui est la catégorie de discours et les quatre discours fondamentaux qu'il rassemble pour dire ce qu'est le lien social. Hein, voilà. Mais quand il parle de ces discours, de ces quatre discours fondamentaux, il utilise le terme de discours dans un sens plus faible, si je puis dire. Donc là, il parle du discours de la science ou du discours médical ou du discours, etc., etc. Mais néanmoins, le discours de la science ou le discours scientifique occupe une place fondamentale dans le dispositif théorique de Lacan. C'est-à-dire que c'est quand même une notion qui revient souvent sous sa plume et c'est quelque chose à quoi il assigne une fonction extrêmement importante, y compris dans l'émergence de la psychanalyse comme telle. C'est-à-dire qu'une de ses thèses favorites, qui revient souvent sous sa plume, c'est de dire que la psychanalyse n'aurait pas pu émerger sans la science, sans l'émergence du discours de la science. Alors, vous faites peut-être allusion à... Je parle dans mon exposé à deux reprises, me semble-t-il, si je m'en souviendrai bon, du discours scientifique. C'est parfois dans des citations, c'est parfois dans l'argument que j'essaye de construire. Alors, quand j'utilise la citation de Lacan des années 70 aux États-Unis, il utilise le terme de discours de la science pour l'opposer au discours universitaire en disant que le discours universitaire et le discours de la science, ce n'est pas la même chose, pour aussitôt dire, au fond, ce qu'on peut considérer comme discours de la science, à peu de choses près, c'est le discours hystérique. Donc c'est ça la configuration. C'est pour dire que c'est le discours de l'hystérique qui, à peu de choses près, est le discours de la science. Alors que dans d'autres passages, dans d'autres textes, il confond, il fait se recouvrir discours universitaire et discours de la science. Alors, ensuite, il y a le passage où j'en parlais pour expliciter ce que j'entends par la façon dont Lacan construit le discours capitaliste en mettant l'accent non pas simplement sur le mode de production, sur la manière de produire les richesses et de les répartir, mais qu'il y ajoute une dimension culturelle idéologique. Et là, je convoque la notion de discours de la science que Lacan considère comme tout à fait essentielle dans la formation du discours capitaliste, puisque si on enlève la dimension du marché, au fond, il ne reste rien d'autre dans le discours capitaliste que le discours de la science, mais entendu non pas au sens de la science comme discipline, mais l'idéologie de la science et ce que Heidegger a appelé la technoscience, c'est-à-dire un fonctionnement, une conception de la science et un mode de fonctionnement de la science qui a une visée pratique de production d'objets consommables. Donc c'est...
Le micro devant. Vérifie, appuie dessus, parce que tout à l'heure, il n'avait pas l'air de fonctionner.
Bon, oui. Oui, je te remercie de ton exposé, parce que tu produis beaucoup de questions. Alors, très sympathiquement.
C'est ça que je vise, la règle.
C'est bien, oui. Produire des questions. Et alors, moi, je voudrais te faire faire un autre exposé en produisant une autre question. Non, parce que Colette Soler, dans son exposé ici, avait terminé sur une question qui me titille depuis. Hein, et donc, je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Qu'est-ce qui pousse l'individu ou qu'est-ce qui pousse le sujet, je ne sais plus exactement ce qu'elle employait, à vouloir faire ce lien social, hein? C'est une vraie question. C'est une vraie question, et j'avoue que tu poses la question de qu'est-ce qu'un lien, qu'est-ce qu'un lien social,
qu'est-ce que faire lien,
etc. Mais fondamentalement, c'est pourquoi faire lien. Peut-être qu'à partir de toutes ces questions, on pourrait amener une réponse. Hein, c'est...
Oui, mais là, je vais te répondre sans réfléchir. Hein. Ah. Il me semble que c'est ce que Bataille appelle l'incomplétude du sujet, c'est-à-dire c'est le manque, le fait d'être désirant, d'être assujetti, hein, d'être marqué par la castration qui pousse à faire lien. Si on est tout complet, si on est une belle monade leibnizienne, on ne fait pas lien.
C'est une réponse côté névrosé.
Je crois que c'est côté sujet. Oui, vas-y.
Je ne sais pas. Je dis ça parce que dans le fond, Lacan, à une époque, poussait le paradoxe, c'est-à-dire que le seul homme libre, c'était le fou. C'est-à-dire que celui qui, dans le fond, ne fait pas lien au sens, ne veut pas être lié.
Ouais.
Être lié, parce que dans le fond, dans les définitions que tu donnes du lien, il manquait à la limite le côté lié, prisonnier, etc.
Ce qui, non, ça ne manque pas. Je l'ai dit de manière
plus voilà.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Simplement, ce que tu dis pose un problème à laquelle je n'ai pas réponse, hein, mais qui me semble-t-il est traité de manière un petit peu légère dans nos milieux, c'est de considérer qu'a priori, tous les psychotiques sont fous. Je n'en suis pas sûr.
Je crois
qu'il y a la psychose et il y a la folie.
La folie, tout à fait.
Voilà, donc quand on est fou, c'est-à-dire quand on ne recherche absolument rien de la reconnaissance, par quelque autre que ce soit, ça c'est de la folie. Ça c'est vraiment la liberté. Mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de psychotiques, heureusement pour eux d'ailleurs, qui ne sont pas du tout de ce côté-là. Ce n'est pas pour rien que Lacan pose la question de savoir si Dieu était fou. Hein. Il n'y répond pas, mais moi je crois que si on y répondait, on devrait répondre...
Si, il y répond implicitement. Hein.
Qui est psychotique,
oui. Psychotique, pas fou.
Non, pas fou.
Sur la question de la folie, non.
Non, mais il pose la question et... Okay. Il pose la question et la réponse, elle se déduit de ce qu'il dit ensuite. Il considère qu'il est...
Ah, on ne déduit pas la même chose.
ma lecture, c'est qu'il considère qu'il ne l'était pas.
Ah bon,
ah oui, on est d'accord. Non,
mais il est psychotique.
Non, mais il pose la question. Il pose la question à son auditoire, mais lui amène la réponse. Il avait la réponse en posant la question.
Oui, mais cette réponse conduit à faire que, à penser que psychose et folie, c'est pas la même chose.
Bien sûr. Voilà. Mais oui.
C'est ce que je voulais répondre.
Bien sûr. Il y a...
Deuxième question qui n'a rien à voir avec celle-là, c'est une question autour de la possibilité d'autonomiser, de différencier réellement système économique capitaliste et civilisation capitaliste. Dans le fond, c'est vrai que système économique, le capitalisme, il se caractérise par l'économie de marché, comme tu l'as remarqué, mais aussi la production de la plus-value comme finalité et l'appropriation asymétrique de cette plus-value avec les conséquences que ça a. Système économique qui est quand même, il faut bien le dire, d'une telle efficacité. Bon, ça détruit les emplois, mais en même temps, au niveau de la production marchande, de la relance, etc., il n'y a rien de mieux.
Ça les détruit, ça les crée.
Oui, non, c'est ça, mais c'est un système très follement astucieux et très, très énergivore. Hein. Ce qui n'empêche que lorsque les pays dits socialistes ont voulu, se sont rendus compte de l'efficacité de l'économie de marché, qu'ils ont adopté l'économie de marché, de facto, ils ont adopté la civilisation capitaliste, et on voit à l'heure actuelle que le plus grand pays capitaliste est dirigé par le Parti communiste chinois. Hein, et que c'est quand même le discours capitaliste poussé à fond. Donc, est-ce qu'on peut dissocier aussi facilement ?
Je dois t'avouer que j'ai dû faire violence à ma formation marxiste pour avancer ce que j'ai dit. Mais il me semble, ce n'est pas qu'on puisse dissocier au sens de dire « ça n'a rien à voir », non. Mais il me semble que le point que Lacan isole, et ce sur quoi il travaille, ça ne consiste pas en la dénonciation du système économique. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Oui, sinon, c'est important. Voilà.
Oui, c'est important.
Mais ce n'est pas pour dire que je porte dans mon cœur le système d'exploitation capitaliste. Ce n'est pas du tout ça. Mais ce qui fait l'intérêt de la catégorie de discours capitaliste, ça ne se situe pas du côté de... Ça ne se situe absolument pas du côté de l'économie en tant que telle. C'est pas réductible à ça. C'est ça que je veux dire.
L'économie de la jouissance.
Hein ?
L'économie de la jouissance.
Oui. Mais il apporte quand même, me semble-t-il, le fait que qu'il n'y a de lien social possible que sur la base du refoulement pulsionnel. C'est-à-dire que, au fond, s'il n'y a pas de renonciation à la jouissance individuelle, c'est-à-dire s'il n'y a pas une limitation de la satisfaction des pulsions chez tous les sujets, il n'y a pas de lien social possible, il n'y a pas de communauté. Comment ? Pas que de la pulsion, ouais, mais toutes les pulsions. Ouais. C'est. Oui, bien sûr. Mais c'est ce principe de limitation de la satisfaction pulsionnelle qui rend les sujets aptes à construire un lien social. Je crois que ça, c'est simplement ce que Freud apporte immédiatement, en même temps, c'est que ce n'est pas sans conséquence. Il y a un prix à payer à ce renoncement-là, hein, du côté de la culpabilité, du côté de du côté du symptôme. Voilà. Mais il me semble que on peut pas faire l'impasse sur ce que Freud apporte dans le malaise pour penser le lien social. Donc là, on revient à ce que Patrick souligner, c'est-à-dire la question de la pulsion, oui. C'est ce que, à sa manière, Lacan thématise en termes de jouissance. Oui. On peut utiliser des mots différents pour cerner le même réel.
Mais j'avais compris que c'était vraiment du renoncement à la pulsion de destruction que pouvait, que c'était ce travail-là. Oui,
c'est possible, mais bon, moi, c'est pas la lecture que j'en fais. Il me semble que c'est la satisfaction totale de toutes les pulsions qui est impossible et qui est à quoi il faut renoncer. Voilà, c'est ça. C'est le principe de base de la castration, même à ne pas passer par le père, si tu veux. Le simple fait du langage et de l'inscription dans un lien avec d'autres qui limite cette satisfaction-là, c'est déjà un niveau primaire, si je puis dire, de castration.
Bon, par rapport à votre discussion, est-ce que tu serais d'accord pour dire que autant Freud, comme tu le rappelles, fonde la civilisation sur le renoncement à la jouissance, Lacan y ajoute le retour de la jouissance dans le langage et les différents modes, qui sont autant de discours, d'organisation de la jouissance dans le langage. C'est ça.
Ah oui,
c'est ça l'économie de jouissance lacanienne, mm-hmm. qui n'est pas qu'une économie de biens, mm-hmm. mais une économie de la jouissance dans le langage.
Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire que ce qu'il marque, il me semble que ce que Lacan éclaire à partir de Freud, c'est de dire qu'il n'y a pas simplement un renoncement. Il n'y a pas un sacrifice total de la jouissance. Ce qui est sacrifié ou ce qui est renoncé fait retour dans le symptôme, etc., etc., mais aussi dans l'économie globale de la jouissance sociale, si je puis dire, ça fait retour sous la forme des plus de jouir. C'est-à-dire que ce n'est pas une perte sèche.
Et dans la langue.
Ah, oui, et dans la langue, bien sûr. Mais bon, ça, c'est... Dans la langue, dans le langage...
Dans le fait que le parlêtre parle, et il parle à lui-même, mais plus souvent à d'autres aussi en même temps.
J'ai un peu perdu là depuis. Oui, enfin, moi j'avais un peu la même question que Jean-Pierre. Bon, maintenant tu y as répondu, donc ça m'éclaire un peu. Mais j'étais un peu déroutée par cette séparation entre idéologie et culture.
C'est une séparation toute didactique.
J'ai compris. J'ai compris. Alors, j'ai une autre petite question, tout à fait de détail, mais j'aimerais bien que tu précises un petit peu, parce que tu as parlé dans un premier temps autour de Durkheim de l'effet de précarité, donc de chômage, et tu as dit résultat des insertions sociales. Là, tu te réfères aux quatre liens selon Durkheim, les insertions sociales et subjectives. Et alors, tout d'un coup, il y a le terme de subjectif qui arrive.
C'est-à-dire que ça a des incidences sur la subjectivité, le fait de se sentir inutile, de ne pas participer.
Oui, non, mais tout ça est évident sur le plan phénoménologique.
Oui,
mais...
C'est dans ce sens-là que je le dis.
Oui.
Parce que sinon, si on utilise le terme de désinsertion, oui, du sujet ou de subjectif au sens du sujet du signifiant, ça ne veut pas dire grand-chose.
D'accord. Mm-hmm.
J'ai une question que tu n'as peut-être pas développée, mais... Non, mais qui est un peu plus général. Ça me vient par rapport à cette remarque sur pulsion de mort, parce que quand on parle du lien social, on le connote positivement.
Comment ?
On le connote positivement, le lien social.
Social, oui.
Voilà. Alors, dans quoi on classe les rapports sociaux, qui sont les rapports de destruction, la guerre, par exemple, qui marquent la civilisation humaine, les massacres, enfin bon, il suffit d'ouvrir le journal. Est-ce que ça ne rentre pas quand même dans la catégorie du lien social, sur un mode délétère, mais quand même, est-ce qu'il ne faut pas prendre ces façons des individus de se détruire entre eux quand même comme étant régis par un discours qui est de l'ordre du lien social.
Non, mais qu'on puisse
à lequel, oui.
Hein, qu'on puisse les inscrire dans un des discours tels que Lacan les a établis, c'est une chose. Les considérer en eux-mêmes comme des discours, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'en prenant la fameuse formule de Clausewitz qui dit que la guerre, c'est la politique menée par d'autres moyens, ça inscrit d'emblée la guerre dans le discours du maître. Mais une fois qu'on
dans le discours
ça,
du maître,
là. Oui, ça ne fait pas de la guerre un discours sui generis.
Ah non, j'ai voilà, pas dit que c'était un discours en lui-même. Non, mais c'était juste parce qu'il me semblait qu'on en parlait toujours sur un versant.
Je trouve que Lacan dit des choses...
Positives.
Il dit des choses même... pas piquées dans le temps sur le discours du maître, le discours de l'université. C'est pas toujours des... Oui.
Je voulais livrer une anecdote dont vous ferez ce que vous semblera bon. J'ai appris récemment par un écrivain qui connaît bien la littérature allemande contemporaine que Günter Grass, pendant les années, dans les années 70-80, tenait des propos très péjoratifs sur la plupart des écrivains est-allemands. Et puis après la chute du mur de Berlin, ces écrivains ont commencé à parler des raisons pour lesquelles ils écrivaient comme ils écrivaient. Et à ce moment-là, Günter Grass a complètement changé de point de vue sur leur façon d'écrire. Je trouve ça intéressant.
Merci Claude.
Tu as évidemment.
La culture.
Alors, qui veut encore intervenir? Bon, plus personne. Alors, je vous propose d'aller faire lien social autour d'un verre.
Je vais faire un deuxième exposé là.
Merci Sidi pour ton exposé, d'être venu nous voir. Là, il fait chaud. Ben, c'est...
Merci.